Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site hommenouveau.fr.
Peine de mort, Robert Badinter avait-il raison? Le 9 février dernier, Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ancien président du Conseil constitutionnel, rendait son âme à Dieu. Il a aussitôt été célébré, toute tendance confondue, pour son action contre la peine de mort qu'il a fait abolir en 1981. Au-delà même de la personne de Robert Badinter, c'est la question de la peine de mort dans la doctrine catholique que mes invités de ce jour traiteront aujourd'hui, et je m'empresse de vous les présenter. Je vais commencer par la laïque de l'étape, merci. Madame Anne Le Pape. Bonjour Anne, merci de votre présence. À vos côtés, l'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes.
À ma droite, le père Jean-François Thomas. Bonjour, bonjour mon père. Et l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour cher ami,
merci
bonjour à tous.
Également de votre présence à ce club des hommes en noir. Alors la peine de mort, c'est un sujet important. Peut-être que avant de rentrer dans le vif de ce thème, une réaction des uns ou des autres, ou de tous d'ailleurs, mais pas tous ensemble, chacun son tour, sur la mort de Robert Badinter, ou sur la personne même de Robert Badinter et de son action politique et judiciaire. Qui ouvre le bal?
Mais écoutez, on nous dit que ça a été un acte tout à fait héroïque, ce qui est faux. Puisque
vous voulez parler de l'abolition de la peine
De 1981, parce que bon, c'est le grand acte de Badinter. Il a fait un certain nombre d'autres choses, discutables ou pas discutables, mais il est surtout connu pour ce travail d'abolition de la peine de mort. C'était tout à fait dans l'air du temps. Je dirais qu'il y avait toute une restriction progressive de la peine de mort. Je rappelle que la dernière exécution publique date d'avant la Seconde Guerre mondiale, 1939. Puis ensuite, on avait pratiquement gracié à Tire-Larigot, sauf Mitterrand pendant la guerre d'Algérie, où il a fait guillotiner un certain nombre de gens.
En tant que ministre de l'Intérieur, je suppose.
Ministre de la Justice.
Ministre de la Justice, oui.
Et donc, effectivement, on était à un moment où c'était dans l'air du temps. Il a dû, je dirais, emporter l'adhésion de certains députés pour avoir une majorité, mais ce n'était pas quelque chose de spécialement difficile. Les Français étaient très divisés, à peu près 50-50, comme ils le sont aujourd'hui, et donc il n'y avait pas une difficulté majeure. Voilà, il a fait cet acte-là, on en discutera après.
Donc selon vous, un hommage exagéré donc à l'action de Robert Badinter.
Je pense que l'hommage, il est à la suppression de la peine de mort, qui représente ce que pense la nomenclature politique, mais Badinter n'a pas fait des actes exceptionnels sur ce sujet, je ne pense pas.
Anne Le Pape, vous qui êtes journaliste, vous êtes une observatrice attentive.
En tout cas, je ferai juste remarquer que on salue Maître Badinter comme défenseur de la vie, qu'il a été logique avec lui-même, conséquent, puisqu'il s'est toujours prononcé contre l'euthanasie, mais que je sache, il ne s'est jamais prononcé contre l'avortement.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser de ce fait. Donc, conséquent avec lui, semi-conséquent, jusqu'à un certain point. Mon père, vous avez une réaction sur Robert Badinter?
Oui, bien sûr, oui. Parler de M. Badinter en tant que personne, bon, il est maintenant devant Dieu, devant son juge, donc ce n'est pas à nous de nous prononcer, ni pour le canoniser, comme ça a été fait de façon unanime, ni pour le jeter aux enfers de façon... justement sans respecter les règles. Mais la personne de Badinter, je trouve, n'est pas très intéressante dans le sens où elle s'inscrit dans un contexte qui est plus large. Il est tout d'abord mari d'une femme, et sa femme a pris des positions qui sont souvent à l'opposé des siennes, ou en tout cas complémentaires des siennes, notamment en ce qui concerne l'avortement, parce qu'elle a été quand même une grande, très grande militante de l'avortement, et elle est
Elisabeth Badinter, c'est ça.
Badinter, voilà. Et puis il s'inscrit dans toute une série de réseaux, notamment la franc-maçonnerie et d'autres réseaux qu'il est préférable de ne pas nommer ici. Donc c'est un symbole, Badinter. Je ne pense pas que la plupart de ceux qui l'aient louangé et de ceux qui vont le panthéoniser s'intéressent vraiment à la personne et aux idées.
Oui, c'est ce qu'il représente.
C'est ce qu'il représente. Et ce qu'il représente, en ce qui me concerne, c'est tout à fait ce que je repousse.
À tout point de vue.
À tout point de vue.
Alors, on en reparlera tout à l'heure donc, sur le sujet même de la peine de mort, mais on va terminer ce tour de table, hein, parle avec Gael Fouchi.
Mais je pense que le père Thomas a dit la chose de manière simple par rapport à cet homme, même si on célèbre un homme politique, un homme, quoi qu'il n'ait jamais eu de mandat électif, je crois.
Il a été sénateur, si, si.
Il a été sénateur, oui, mais c'est du vote indirect, et vote c'était indirect. Pour l'honorer. Et il a été surtout au Conseil constitutionnel, donc il est présenté comme un grand juriste, il était avocat, mais c'est un tout. Et dans ce tout, pour reprendre ce qui a été dit, on ne peut pas passer à côté de l'avortement, même si on pourrait utiliser ce qu'il a dit par rapport à l'euthanasie. Et puis on ne peut pas faire fi du militantisme d'Elisabeth Badinter qui va jusqu'à la gestation pour autrui.
Oui, mais par ailleurs, chaque personne est responsable de ses actes et de ses prises de position.
C'est une ambiance générale.
Aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai surtout été étonné par le tweet fait au nom, en tous les cas, de la conférence épiscopale française, saluant l'action de Robert Badinter.
Plus que ça, c'est l'inlassable combat de M. Badinter pour la dignité humaine. Donc ça va bien plus loin que la peine de mort.
Non, mais la conférence épiscopale ne rate jamais une occasion de se taire. Donc je dirais, surprise, la conférence épiscopale encore plus mauvaise que d'habitude. Enfin, je veux dire, c'est...
En même temps, c'est un simple tweet. Je ne sais pas qui l'a exactement rédigé, mais
il n'a pas été dénoncé par aucun évêque.
Il n'a pas été dénoncé, effectivement. Donc on peut le regretter. Alors si on en vient à la question de la peine de mort dans la doctrine catholique, doctrine a subi quelques modifications dans ces dernières années, pour que nous puissions bien saisir justement la portée de ces modifications et éventuellement leur importance, peut-être que l'un d'entre vous pourrait nous rappeler, tout le monde se tourne vers vous, monsieur l'abbé, donc je ne vais pas faire semblant. Oui, c'est notre introducteur doctrinal. Quelle est la position traditionnelle, ou quelle était la position traditionnelle de l'Église sur la peine de mort ?
Voilà. Rappelons donc que le catéchisme. Le catéchisme modèle étant le catéchisme du Concile de Trente, hein, le catéchisme romain, donc est un résumé de la somme théologique de saint Thomas. Donc allons à la somme théologique de saint Thomas. Secunda secundae, question 64, article 2.
Prenez des notes, hein, ça peut être utile.
Saint Thomas nous dit « L'homme, en péchant, s'écarte de la raison. » Et donc, il s'écarte de la dignité humaine et devient en quelque sorte une bête. Donc, s'il est mauvais de tuer un homme digne de l'humanité, donc l'homicide est interdit, il peut être bon de tuer un homme pécheur comme on peut tuer une bête. Donc la justification fondamentale de la peine de mort, c'est le fait que par sa faute très grave, extrêmement grave, la peine de mort porte sur des cas très graves, l'homme s'est éloigné de sa propre dignité, s'est rabaissé au rang d'une bête, et si on ne peut pas tuer un homme digne, on va pouvoir effectivement tuer. L'autorité publique va pouvoir, pour le bien commun, dans des circonstances définies, pouvoir tuer un être humain. Voilà.
Il y a donc plusieurs critères. C'est-à-dire qu'il faut que, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, il faut que l'acte commis soit tel que ça ravale l'homme, il perd sa dignité donc, d'homme, et que ça soit l'autorité légitime qui.
C'est toujours forcément.
Qui commande
c'est toujours l'autorité légitime qui donne des peines. C'est toujours l'autorité légitime qui donne des peines. Donc c'est une des peines possibles, et donc que ça soit l'autorité légitime, c'est normal. C'est effectivement, la peine de mort étant la peine la plus grave, elle va être proportionnée, évidemment, à la faute aux fautes les plus graves. Ça paraît logique.
Et au-delà du Concile de Trente, si je puis me permettre, il y a eu...
Cette doctrine est la doctrine commune, on va dire, jusqu'au...
Non mais depuis quand, en fait, est-elle la doctrine comme commune ?
Ah ben c'est la doctrine depuis les pères de l'Église. Hein. Les pères de l'Église la peine de mort était une institution généralisée, elle n'a jamais été contestée dans l'Église. La seule chose qui était spécifique, c'est que l'Église, elle, pour ses propres sanctions, n'a jamais admis la peine de mort, d'accord ? Et si elle estimait que quelqu'un, elle le remettait au bras séculier, le seul qui utilise ce type de peine. L'Église, elle, n'a jamais pratiqué la peine du sang, si vous voulez, mais elle l'a admise.
Elle l'a déléguée au bras temporel.
Manifestation qu'effectivement, elle n'était pas contre, même si elle estimait qu'elle ne devait pas la pratiquer.
L'Église, depuis les origines, a toujours été prudente en ce qui concerne la peine de mort. Elle n'a pas été contre, mais elle a été prudente. Et bien évidemment, dans tous les royaumes chrétiens, à commencer par l'Empire byzantin, la peine de mort existait, mais elle était en fait relativement peu appliquée. Elle était appliquée vraiment dans des cas qui étaient très très graves. En revanche, il y avait d'autres peines qui rendaient peut-être la peine de mort enviable, parce qu'il y avait des tortures, etc., qui était tout à fait admise.
Qui était admise moralement.
Moralement, oui. Mais donc, ça n'allait pas jusqu'à enlever la vie de la personne. Et on voit bien qu'au Moyen-Âge, y compris avant saint Thomas d'Aquin, l'Église est réticente vis-à-vis de la peine de mort, de l'application de la peine de mort, parce que cela peut ôter à la personne la possibilité de la rédemption. L'Église, bon, c'est quand même son souci principal, donc peine de mort, pourquoi pas, mais à condition que la personne voit ça comme une voie de salut, et ça l'a été évidemment dans certains cas.
Mais pas dans tous non plus.
Et puis la deuxième chose, c'est l'Église était réticente parce que le jugement provenait d'un jugement humain et pas d'un jugement divin. Donc ça, c'était les deux réticences de l'Église. Et même au Moyen-Âge, qui a une très très mauvaise image de marque aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, on ne tuait pas comme ça sans raison. Et on ne tuait pas non plus des quantités innombrables de personnes.
Et de personnes juste pour le plaisir, voilà. Ou par sadisme. Monsieur Abbé Guelfouchi, vous aviez sur cette position traditionnelle de l'Église.
Eh bien, la position traditionnelle de l'Église, quand on voit dans l'Ancien Testament les peines de mort nombreuses qui étaient demandées par Dieu lui-même, pour protéger le bien de du peuple, mais qui était sévère. C'est pour ça que vous avez Marcion, le marcionisme, qui dit qu'il y a comme deux dieux ou deux religions.
Donc c'est une hérésie, il faut préciser.
C'est une hérésie, et donc il faut bien comprendre pourquoi Dieu demandait la peine de mort pour celui qui travaillait le dimanche, qui travaillait le sabbat, ou qui enfreignait une loi morale, c'est parce que les hommes étaient extrêmement durs. Il faut s'imaginer qu'ils étaient entourés de peuples qui faisaient des sacrifices humains, qui mettaient des bébés dans les fondations des maisons, des villes, qui brûlaient des bébés, qui tuaient des adultes. Et le peuple juif a été conduit de manière sévère pour ne pas entrer en relation avec une idolâtrie extrêmement sanglante. Alors, la lapidation, par exemple, de la femme adultère est un exemple, et on voit que même à la fin de l'Ancien Testament, c'est tombé en désuétude et que cette peine de mort n'était plus appliquée. C'est une des épreuves qu'on propose au Christ en lui disant, voilà, cette femme a été prise en adultère, est-ce qu'on doit la lapider ou pas ? Comme on ne lapide plus les femmes adultères.
On lui pose la question pour le
piéger.
Pour le piéger.
Mais il y a deux solutions.
Mais il comptait bien la lapider, cette
femme. Non. C'était tombé en désuétude, donc on n'allait pas la lapider. Donc le Christ disait, oui, lapidez-la, c'est la loi de Moïse, et il était présenté comme quelqu'un de cruel. Et s'il disait, non, ne la lapidez pas, il disait, il ne suit pas la loi de Moïse. C'est pour ça que le Christ...
Donc la loi de Moïse n'était plus appliquée sur ce point.
Elle n'était plus appliquée sur ce point, ou très peu. Et donc, pour revenir à la position de l'Église, même contemporaine, enfin avant quelques changements, l'autorité publique, pour le bien de la société, de manière proportionnée au crime, avec la certitude de la culpabilité du coupable, et ça pose quand même un grand problème, voyez, peut mettre à mort avec la condition que cette personne puisse faire pénitence, qu'on lui propose. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dit quelque chose d'extrêmement fort et pointu, qu'on retrouve dans le cas de Georges Flèche et des écrits qu'il a laissés et qui ont ouvert la possibilité d'une enquête de béatification qui n'a pas allé jusqu'au bout. Bah, c'est difficile parce qu'il a quand même tué un policier à l'époque. Bon, c'était le fait qu'un condamné à mort qui accepte la peine temporelle en réparation du péché qui lui a valu cette condamnation à mort a un mérite exceptionnel et est justifié. Vous voyez ?
Parce que c'est pas un peu
parce que c'est odieux. La peine de mort est odieuse. Et j'ai beaucoup trop parlé, mais la peine de prison, saint Thomas d'Aquin dit, la peine de prison elle-même est odieuse. Et on peut même s'échapper. Mais face à Dieu, et même face à la société, il faut réparer.
Donc si on s'échappe, il faut quand même réparer.
Il faut quand même réparer d'une manière ou d'une autre le mal qu'on a fait. Mais on peut, c'est extraordinaire, saint Thomas d'Aquin dit, on peut s'échapper de prison. Et donc on peut aussi essayer d'échapper à la peine de mort. Seulement, celui qui l'accepte pour la vie éternelle est justifié. Mais si vous voulez, c'est une pensée qui est tellement.
Alors justement, le premier
fine
condamné à mort justifié comme
jours.
Ça, c'est le bon larron finalement.
Oui, lui, il l'accepte.
Il accepte
et
sa peine.
Demande, et
pour nous,
demande.
C'est justice. Pour nous, c'est justice.
Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit très clairement. Père Thomas. Oui.
Il est d'une certaine façon heureux que la peine de mort ait été appliquée, parce que c'est ce qui nous vaut aussi la rédemption. Notre Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié, selon la loi romaine, comme un esclave. Donc vraiment la pire des peines de mort. Dans le droit romain, en fait, le citoyen romain était rarement condamné à mort. Pour tous les autres...
Ce qui arrive à saint Paul, quand même.
Oui, parce qu'il est mais à l'épée.
Oui, mais à l'épée.
À l'épée, voilà. Oui.
Donc c'est une mort tout à fait digne. Et c'est d'ailleurs ce qui sera pratiqué jusqu'au XVIIIe siècle pour les nobles. C'est toujours à l'épée ou à la hache. Pour les autres, pour les manants, oui, mais bon, c'est quand même la mort la plus sobre qui puisse...
Alors moi qui suis manant, j'aurais été condamné
pendu,
comment
pendu.
Pendu.
Qui puisse exister. Mais bon, notre Seigneur a été condamné à mort.
Oui, tout à fait, c'est vrai que ça...
Donc, pour le christianisme, ça signifie quand même quelque chose.
Ça signifie quelque chose, effectivement. Anne Le Pape, je vous vois me regarder, donc je vous laisse parler.
Gail Fucci a parlé de Jacques Fesch, puisque un des arguments qu'on peut entendre, c'est qu'il faut laisser aux condamnés le temps de se repentir et de se tourner vers Dieu. Mais il y a eu des exemples comme Pranzini, par exemple, qu'on connaît grâce à Sainte Thérèse,
Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, oui.
Puisqu'il avait fait un triple meurtre en 1887 et qu'il a été condamné à mort, qu'il a refusé de voir l'aumônier, d'écouter l'aumônier. La toute petite Sainte Thérèse a prié pour lui, pour qu'il se convertisse. Et au moment de glisser sa tête dans la lunette de la guillotine, il s'est tourné vers le crucifix et qu'il a embrassé. Donc il y a toujours ce moment, Dieu offre toujours le pardon. Et puis bon, Jacques Fesch, bien sûr, qui a eu un cheminement spirituel admirable, se comparant au bon larron, parlant des clous acceptés, etc. Bon. Cheminement spirituel qui a bien dû avoir des hauts et des bas, bien sûr. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions.
Oui, et surtout quand on se retrouve dans une cellule, on est
voilà,
seul.
Voilà.
Parce que c'est ce que dit saint Thomas, la perte de la vie est la plus grande des pertes. On ne peut pas perdre plus que la vie. C'est la peine de mort. Nous autres, on peut être privé des biens extérieurs, on peut être privé de sa liberté, on peut être privé de tout ça, mais la perte de la vie, c'est irréparable.
C'est la peine la plus terrible.
La plus grave.
Est-ce que c'est la plus terrible
La plus grave,
oui.
Mais...
Le pape François parle bien, dit bien que la prison à vie... C'est une forme de mort cachée, et c'est vrai que c'est horrible.
Oui, mais il le dit dans son discours, mais dans la nouvelle rédaction du
catéchisme. Alors on va en parler justement.
Catéchisme, il dit que grâce à la peine de prison, on n'a plus à utiliser cette peine.
Tout à fait.
La peine de mort.
Alors justement, à partir de quand l'Église modifie-t-elle sa position je ne sais pas s'il faut employer, s'il faut dire sa doctrine. Vous me corrigerez. Enfin, vous...
une certaine expression de la doctrine.
Et de sa doctrine, en tous les cas, sur la peine de mort.
Moi, je pense que ça commence au concile où on commence à agiter la question, même si ça n'est pas traité, donc dans Gaudium et Spes, hein, c'est le document de Gaudium et Spes, ça n'est pas traité de façon exhaustive, mais on commence déjà à s'orienter vers là. Je vais défendre l'interdiction de la peine de mort donc dans quelques instants, mais ce qui n'est pas absurde et ce qui n'est pas sot.
Pourquoi?
Parce que un certain nombre de conditions sont en train d'évoluer, notamment l'efficacité des États à maintenir dans des prisons, parce que effectivement aujourd'hui pour se sauver des prisons occidentales c'est extrêmement difficile, hein. Il y a très peu d'évasion réussie, et parce que nous sommes dans un siècle qui se médiatise. Et donc la peine de mort devient, quelque chose qui va se répandre en images. Je disais que c'est en 1939 qu'il y a eu la dernière exécution publique.
Donc auquel les personnes, le public pouvait assister, hein, c'est bien
en
ça.
En réalité, on le faisait à 4h du matin, mais il s'est trouvé, je ne sais pas exactement, que ce jour-là il faisait beau, il faisait clair, et qu'il y a eu beaucoup de photos. Et que ça a été un scandale, si vous voulez, dans la société, parce que ces photos étaient...
Ah, c'est par les photos, en fait, qui ont été prises à ce moment-là, oui, bien sûr.
Et qu'on a dit, bon, il faut arrêter, il faut faire en sorte que ça ne soit plus public. Donc, on était déjà confronté à des problèmes d'image, par exemple. Donc, voilà, il faut pas dire, la peine de mort, il y a des circonstances qui expliquent en partie cette nécessité d'une réflexion sur la question.
Une réflexion nouvelle sur la...
C'est une décision d'ordre politique, et la politique doit tenir compte des circonstances.
Bien sûr. Père Thomas, vous vouliez intervenir?
Oui, pour rajouter deux causes qui me semblent aussi importantes. Il y a une cause qui est historique, c'est-à-dire qu'il y a eu les grands bouleversements du XXe siècle, avec notamment la Seconde Guerre mondiale et les suites de la Seconde Guerre mondiale, avec les condamnations, les exécutions, l'épuration, etc. Ça, c'est une chose, et c'est pas simplement dans un contexte français, hein, c'est beaucoup plus,
oui, c'est
beaucoup plus large.
C'est moins à l'échelle européenne, effectivement.
C'est international. Et puis, la seconde chose, c'est que la peine de mort ne peut être comprise dans son juste sens que dans une société chrétienne. À partir de tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, voilà, on voit bien que la peine de mort a un sens si cela peut aider la personne qui a commis une chose atroce et qui peut mettre en danger le bien commun, la société, donc elle n'a de sens que si elle amène cette personne à la rédemption.
Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, nos sociétés occidentales...
Ne peuvent pas comprendre.
Nous sommes plus à même de comprendre, oui, à cause de l'ambiance culturelle dans laquelle nous sommes plongés.
Et quand le pape François dit que la peine de mort est une mesure inhumaine, à mon avis, sa réaction, c'est une réaction... laïque, c'est une réaction sécularisée. Mais ce n'est pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contre la peine de mort, mais il faut, à mon avis, réagir dans la perspective de la rédemption, toujours.
D'ailleurs, je réagis, mon père, à vos propos, parce que on sait que Camus a réfléchi beaucoup sur la peine de mort. Il a écrit ses réflexions sur la guillotine, sur la peine de mort.
Et il a défendu les condamnés.
Il a été contre. Voilà. Mais lui-même, un croyant, reconnaissait que dans une société religieuse, la peine de mort se justifiait, puisque on retire au condamné sa vie terrestre, mais qu'on ne lui retire pas la possibilité d'obtenir le pardon de Dieu. Et donc, son argument contre la peine de mort était que la peine de mort rompait la solidarité humaine devant la mort. Mais il disait que dans une société religieuse, qui a une dimension sacrée, cet argument ne tient pas, et que donc on comprend que dans une société religieuse, je répète, on puisse appliquer la peine de mort. Mais sa conclusion était, désormais la société n'est plus religieuse et laïque, donc on ne peut plus appliquer la peine de mort.
Ça peut se comprendre, en effet.
Alors vous avez évoqué, M. Abbé Cellier, le Vatican II, mais... Plus récemment, à partir du pape Jean-Paul II, il y a une évolution sur...
Voilà, en trois étapes.
Dans le catéchisme même.
Voilà, le catéchisme de l'Église catholique, 92, donc sa première...
1992.
1992, sa première édition, qui nous dit que pour le bien commun, l'autorité peut sévir, y compris par la mort, et elle demande deux critères, que Kassim demande l'extrême gravité du crime et que les autres moyens ne suffisent pas. Ceci va être modifié en 97. Même doctrine de fond, mais précise que les autres moyens, c'est intéressant.
Donc ça, Jean-Paul II toujours vivant.
Jean-Paul II toujours vivant, et précise que les autres moyens, en dehors de la peine de mort, donc, sont plus conformes au bien commun et à la dignité de la personne. Donc la peine de mort est moins bonne, même si elle reste bonne en soi. Et de plus, il dit, le catéchisme dit effectivement que l'efficacité actuelle des peines, n'est-ce pas? Et ça, c'est objectif. En tout cas, dans les sociétés occidentales, c'est objectif. L'efficacité actuelle des peines rend le cas où on aurait besoin d'utiliser la peine de mort rare, sinon inexistant. Donc, ça ne peut pas se faire, mais ça, je dirais.
Donc, le principe est sauvegardé, en somme.
Le principe est sauvegardé, mais.
Mais les conditions de contingentes font que c'est plus possible. Enfin, voilà. C'est plus applicable réellement, voilà. Si je comprends bien.
Voilà. Il n'y a plus. Alors, je pense que sous-jacent, il pourrait y avoir des situations telles que des situations de guerre ou de cataclysme où ça pourrait redevenir ponctuellement nécessaire parce que on ne pourrait plus enfermer les gens ou des choses comme ça parce que les prisons seraient écroulées parce que il y aurait un cataclysme, etc. Alors le pape François, dans son discours de 2017, où il va demander une nouvelle modification du catéchisme de l'Église catholique, et donc le pape François contredit positivement cette doctrine constante. Il dit que la peine de mort est contraire au droit naturel et surnaturel, ce qui implique que le passé de l'Église, je dirais, est pécamineux et est l'objet de péché. Il dit que la peine de mort a été dictée à l'époque par des motifs indignes, donc il estime que le passé de l'Église est indigne, et il dit que le respect de la vie doit être absolu et universel. Alors, il n'en tire pas la conclusion, mais logiquement, cela devrait interdire la légitime défense et la guerre juste. Si le respect de la vie doit être absolu et universel, on ne peut pas tuer quelqu'un qui tente de vous assassiner.
D'assassiner des enfants dans une maternelle.
Voilà, c'est alors il ne le dit pas, il ne porte pas.
Parce que ça
aurait été un tollé général, mais c'est la seule conclusion. Mais en revanche, les deux premiers points, il le dit explicitement. C'est contraire au droit naturel et surnaturel. Donc, en conclusion, le passé de l'Église est pécamineux. Et c'est dicté par des motifs indignes, ce qui est quand même incroyable, n'est-ce pas? Et donc, le passé de l'Église est indigne, car encore une fois, à la fois l'Église, dans ses papes, dans ses évêques, dans ses théologiens, etc., a justifié la peine de mort et a remis des personnes à la peine de mort ou a participé, je dirais, avec ses aumôniers, etc., à la peine de mort. Donc voilà, là, il contredit la position traditionnelle, la pratique traditionnelle, et il jette le discrédit sur tout le parti de l'Église, ça c'est clair.
Mais au-delà de ça, dans la nouvelle formulation du catéchisme, on voit bien que le nœud de l'argumentation repose sur la dignité de la personne, puisque
comme le raisonnement de saint Thomas.
Ben justement, c'est pour ça que je voudrais vous faire réagir là-dessus, puisque la nouvelle formulation, si je ne me trompe pas, dit « la suppression de la vie d'un criminel comme punition d'un délit est inadmissible parce qu'elle attente à la dignité de la personne, laquelle n'est pas perdue, donc là c'est contraire à saint Thomas, même après des crimes très graves ». Donc il y a une évolution là dans le par rapport à la perception qu'on a de la dignité de la personne.
Voilà, alors toute la question est... Je me permets de dire, ça c'est pas notre sujet, mais je me permets de dire que ça renvoie au document sur la liberté religieuse, hein, puisque c'est la même doctrine réappliquée. C'est la doctrine radicale ou la doctrine opérative, c'est-à-dire radicalement, l'homme sur cette terre...
À propos de la dignité, oui.
Voilà, est capable de se convertir, on en parlait, Jacques Fesch, le bon larron, etc., est capable de se convertir, donc il garde cette dignité radicale qui lui permet de revenir dans le bien. Mais sa dignité opérative, ce qu'il a fait, ce qu'il est actuellement dans sa faute, je dirais, il a perdu cette dignité parce qu'il a fait une faute très grave, donc c'est l'argumentation de saint Thomas. Là, on évolue en disant... Quoi que la personne fasse, elle ne perd jamais sa dignité. Et donc, mais je ne vois pas en quoi, si elle n'a jamais perdu sa dignité, je ne vois pas en quoi une peine de prison serait plus légitime qu'une peine de mort. Franchement, je ne saisis pas.
Monsieur Abbé Guelfucci.
Voilà. Mais cette distinction est vraiment très importante. C'est-à-dire que lorsque on considère que la peine de mort, d'un point de vue d'une action de l'autorité publique, avec le temps, parce qu'on pourra éventuellement évoquer les peines de mort dans l'urgence. Vous voyez, vous avez à Neuilly, vous avez un homme qui a une ceinture d'explosifs, qui est au milieu des enfants de maternelle. Qu'elle soit fictive ou réelle, c'est pas le problème. Elle était réelle, d'ailleurs.
Vous parlez de la ceinture.
Même si elle était fictive,
la ceinture d'explosifs.
Il s'est endormi, et le président de la République et les autorités publiques ont permis à un tireur d'élite de le tuer. Alors,
vous assimilez ça à la peine de mort.
Non, la peine de mort dont on parle actuellement, on est bien d'accord, c'est avec examen des preuves, juge et du temps. On est bien d'accord.
C'est pas la même chose,
mais d'un point de vue de la dignité de la personne, si vous voulez, il était endormi, c'était un criminel potentiel, c'est plutôt de la légitime défense. Mais c'est une légitime défense, il était endormi quand même. Bon. Mais il était, s'il se réveillait...
Oui, c'est intéressant comme cas d'ailleurs.
Il appuyait sur le détonateur, voilà. Mais il est bien important de dire que dans le catéchisme de l'Église catholique, quand le pape s'exprime, il a raison sur d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire que la dignité humaine ne se perd jamais, et c'est parce que saint Thomas d'Aquin ne dit pas qu'elle se perd absolument, mais il y a une atténuation des droits, enfin des conséquences, pardon, parce que le mot droit de nos jours est trop utilisé, de cette dignité par rapport à l'action qu'il a faite et l'action du bien commun autour de lui. Et c'est la raison. Et il y a cette dignité fondamentale qui est cette être capax dei, hein, c'est-à-dire être capable de connaître et d'aimer Dieu et de se sauver. Hein. C'est la dimension verticale par rapport à une dimension totalement horizontale. Mais là où c'est embêtant, quand même, c'est ennuyeux, en droit naturel, en stricte justice, la peine de mort est tout à fait possible. On ne peut pas dire que c'est contraire à la loi naturelle. Et en ce qui concerne le droit divin...
C'est possible dans une proportion.
Quand on voit que, que Dieu a demandé de nombreuses peines de mort pour empêcher les hommes de tomber dans des péchés terribles, vous voyez, tout ça, c'est une sorte de confusion historique. Heureusement, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il écrit « Il n'a pas l'assistance de l'Esprit-Saint, ce n'est pas infaillible », mais ce genre de documents ou ces genres de discours ne sont pas aussi couverts par l'infaillibilité.
Oui, non, ça c'est une autre question.
Peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des erreurs dans ces...
Avant de laisser la parole au Père Thomas, je voudrais réagir. Vous dites que l'homme ne perd jamais sa dignité.
Sur cette terre, radicalement.
Saint Thomas emploie comme argument, enfin, sauf si j'ai mal compris. Donc,
oui, la dignité opérative. Cette distinction était vraiment très bonne.
Si l'homme est réduit au rang de bête et
en quelque sorte, c'est important ça. Hein.
Mon père, voilà, j'ai eu ma réponse, donc je vous laisse parler.
Oui, simplement pour souligner que ce que vous avez invoqué à propos de la mouvance de la compréhension de la dignité humaine au cours des siècles, enfin surtout à partir du XXe siècle dans l'Église catholique, cela s'explique alors dans un contexte qui est plus large, c'est que on considère que en ce qui regarde la dignité humaine, c'est vrai aussi pour les autres choses. La doctrine évolue. On est dans la théorie de l'évolution de la doctrine. Donc il n'y a rien de stable en fait.
Donc ça pose un problème.
Et donc
on est bien d'accord.
Oui. Et ça pose pas simplement le problème pour la dignité humaine, mais pour beaucoup d'autres choses.
Oui, oui, mais bien sûr. Mais je parlais de la dignité humaine parce qu'elle est invoquée là comme moyen terme de l'argumentation. C'est justement au regard du respect de la dignité.
Parce que en plus, les défenseurs eux-mêmes du fait d'écarter la peine de mort comme indigne, mais aussi difficile parce que les moyens de nos jours avec la prison, pas dans tous les pays d'ailleurs, mais moi, ce qui me rend extrêmement, inquiet de la peine de mort, pour moi, à titre personnel, c'est la preuve. Parce que, sauf le flagrant délit, de nos jours...
Établir la preuve
qu'il s'agit bien du coupable...
Oui.
Et on a aux États-Unis des procès invraisemblables où il n'y a pas de flagrant délit Et on finit par dire, oui, c'est lui le coupable, et on le tue, et il était innocent. Et ça, c'est une des raisons contre la peine de mort de fait, votée ou admise dans un pays, si le système de preuves est défectueux, hein, ou des conditions de flagrant délit bien claires. Tout ça, c'est, il faut être très, très concret et très objectif.
Hein, donc, de ce point de vue-là, vous rejoignez
la
position de Jean-Paul II,
D'un point de vue pratique, en plus, le crime politique. Robert Badinter considère que la mort de Louis XVI était bonne.
Il s'est exprimé là-dessus ?
Oui. Il a dit que sinon, le peuple n'aurait pas été souverain. Je ne vois pas en quoi Louis XVI, en tant qu'homme, a mérité de ne pas être un homme. Enfin, vous voyez, donc c'est...
Ah, oui, sa condition de roi lui faisait perdre sa dignité.
Voilà. Et la Révolution française, il faudrait peut-être aussi que ceux qui sont très impliqués contre la peine de mort et qui se souviennent que les faisceaux délicteurs de la République française, c'était les haches de la peine de mort. Donc on pourrait retirer ces haches.
Se souvenir de grand travail de la guillotine.
Et Noël Pinault que nous fêtons le 21 février, lui a été décapité en ornement sacerdotaux. La peine de mort appliquée aux opposants politiques ne pose pas trop de problèmes à certains aux opposants à une peine de mort pour les délits de crime. Dans les coutumes anciennes, parce que les voleurs vous coupaient les jarrets, hein, ils vous coupaient les muscles arrière des non seulement des chevaux mais aussi des hommes, ils vous mutilaient pour vous voler. Dans des coutumes pénales de siècles passés, au bout du deuxième vol, vous étiez pendu. Mais c'était extrêmement sévère. Hein.
Donc, effectivement. Mon père ?
Oui, nous n'avons pas parlé, en fait, des arguments qu'il considère comme massue, des arguments de ceux qui, d'ailleurs, hors et dans l'Église, ont été de fervents partisans de l'abolition de la peine de mort. Souvent, ce qui est présenté, c'est que la peine de mort, de toute façon, ce n'était pas une dissuasion. Alors, bon, ça reste à prouver, de toute façon. Et puis, c'est ne pas prendre en compte tout ce qui est récidive. Donc, M. Badinter, par exemple, en voulant protéger toute vie, n'a pas protégé la vie de ceux qui ont été tués par ceux qui, ayant commis des crimes et ayant pu être condamnés à mort, mais ne l'ayant pas été, ont continué leur forfait.
Il y a des exemples sur ce point-là ?
Alors, des exemples précis, moi, je ne suis pas capable de vous en donner, mais oui, on voit bien que tous les jours, il y a des personnes qui sortent de prison, même en ayant été condamnées à la peine à perpétuité.
À perpétuité, mais qui sortent avant.
Qui sortent avant et qui recommettent des crimes.
Il faut se souvenir tout de même que j'ai trouvé ça dans une interview de Jean-Louis Arouel, qui est professeur de droit. Il citait Badinter qui disait qu'il ne se sentait pas vraiment du côté des innocents et des victimes. Donc,
oui, mais par son travail d'avocat, en fait.
Pas seulement. Je pense que... Alors déjà, cette histoire de prison... le pape François dit que la prison à vie, c'est une forme de mort cachée. Et Robert Badinter était contre la prison. Il disait que c'était criminogène, qu'il ne fallait pas mettre les gens en prison. Donc, on sait qu'en France, bon, pas pour les gens qui ont tué peut-être, mais en tout cas, les peines de prison sont souvent commuées en peines alternatives et quelquefois pas du tout exécutées. Il faut aussi savoir que les prisons sont pleines et que désormais, on demande aux magistrats de ne pas condamner à la prison. Bon, tout ça fait partie d'une culture de l'excuse qui a été mise en place. Et de la compassion, on voit de la compassion pour le criminel et on oublie complètement la victime. Et on arrive à un fait précis, justement, auquel je pense. En 2013... un journaliste découvre dans les locaux du syndicat de la magistrature, ce qui est fort élégamment appelé le mur des cons, sur lequel on met des photos de gens qu'on considère comme des crétins, dont, dont la photo du père d'Anne-Lorraine Schmitt, qui a été assassiné dans le RER de 34 coups de couteau par un violeur récidiviste. Ça n'est pas la photo d'Anne... On ne met pas la photo d'Anne-Lorraine pour lui rendre hommage. On met la photo de son père pour se moquer de lui.
Oui, parce que par ailleurs, il est général, je crois.
Et qu'il a demandé plus de répression.
Et plus de répression, effectivement.
Donc, c'est quand même une espèce de retournement de la situation. On suit Hugo, en fait, avec son dernier jour des condamnés, qui ressent une grande empathie pour le criminel, mais il n'est absolument pas question...
Plus question de la... Alors justement, là où il est, parce que l'émission va arriver à sa fin, à propos des victimes, justement, on nous oppose souvent... on oppose souvent au tenant de la position traditionnelle de l'Église sur la peine de mort le fait que les catholiques sont à la fois contre l'avortement, sous prétexte qu'on supprime une vie, et pour la peine de mort, au moins en principe, qui entraîne la suppression d'une vie. Et donc, on manifeste ainsi une certaine incohérence.
Voilà, je précise, on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, que je ne suis pas pour la restauration de la peine de mort en France. Je pense que ce serait une erreur politique. Enfin, on aura peut-être le temps de discuter, peu importe. Mais en revanche, évidemment, cette parité n'a rien à voir. On parle d'un côté d'un innocent, de l'autre d'un coupable. Donc il n'y a pas de parité. On ne peut pas, c'est ce que dit saint Thomas explicitement. Donc s'il est mauvais de tuer un homme digne de l'humanité, toute personne innocente est digne de l'humanité et elle ne peut pas être tuée, la question se pose de façon différente pour la personne qui, elle, par un crime, s'est rabaissé dans sa dignité. Je souligne un peu de choses, je donne un petit exemple concernant l'efficacité de la peine de mort, puisqu'on dit que ce n'est pas efficace, ça ne dissuade pas. Un Français qui était un grand pédophile a vécu pendant un certain nombre d'années aux États-Unis, n'est-ce pas ? Et pendant le temps où il était aux États-Unis, il n'a pas pratiqué la pédophilie. Parce que tout simplement,
c'est la peine de la mort. D'accord.
Et quand il est reparti en France, il a recommencé ses crimes pédophiles parce qu'il n'y avait pas la peine de mort. Et donc, c'était tout à fait dissuasif.
Effectivement, intéressant. Alors, dites-nous quand même en quelques mots pourquoi vous n'êtes pas favorable au rétablissement de la peine de mort, parce que c'est une question qui agite souvent les médias.
Voilà, je pense que
en tout cas l'opinion publique.
La politique doit tenir compte de la culture d'un pays, d'une civilisation. On ne pourrait pas appliquer la législation sur les armes des Américains en France, et réciproquement, on ne pourrait pas appliquer la politique du référendum en Suisse comme on le fait en Suisse en France, et réciproquement. Donc, effectivement. Aujourd'hui, on dit qu'une majorité toute relative, 51 je crois, serait en faveur de la peine de mort. Je pense que s'il y avait un référendum, il n'est pas du tout sûr que cette position gagne. Et même si effectivement ça gagnait, chaque fois qu'il y aurait la peine de mort, ça serait un conflit en France et une dispute incroyable. Et je pense qu'un politique sérieux doit éviter ce genre de choses, tout en menant une politique répressive solide et sérieuse. Encore une fois, les États-Unis ont mis en place la perpétuité réelle. Ils construisent des hôpitaux où les condamnés finissent leur vie quand ils ont Alzheimer, quand ils ont Parkinson. Ils sont en prison jusqu'à la fin de leur vie. Et effectivement, ils appliquent une peine de prison à vie et ils l'appliquent sérieusement. Et là, il n'y a pas de récidive possible et la peine est purgée.
Oui, un simple rappel historique, c'est que les premiers pays royaumes à l'époque ou principautés qui ont aboli la peine de mort, ce sont tous des pays chrétiens, catholiques. C'est le grand-duché de Toscane en 1786 qui a aboli la peine de mort. Et à San Marin, c'était un peu plus tard, c'était au milieu du 19e siècle, mais la peine de mort existait, mais elle n'avait pas été mise en pratique depuis le 15e siècle. Donc c'est dire que dans une société chrétienne, on ne peut pas dire qu'une société chrétienne serait pour la peine de mort, ça n'a aucun sens. Mmh. Mais la peine de mort pourrait être appliquée, évidemment, dans certains cas.
Voilà, elle est légitime, mais pas forcément nécessaire et obligatoire pour une décision politique. Mmh.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup de ces analyses, de ces avis sur la peine de mort. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. J'aurai le plaisir de vous avoir encore autour de cette table et à ces micros pour parler d'un tout autre sujet, puisque nous évoquerons la notion de tradition. Après tout, on en parle souvent de la tradition de l'Église, voire des traditionalistes. Donc, on s'intéressera au moins à la tradition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt et que d'ici là, Dieu nous garde. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homenouveau.fr.